Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour notre deuxième conférence sur le thème de la crise sanitaire et qui est malheureusement encore d'actualité et qui aura pour sujet aujourd'hui, face à la crise sanitaire, quel rôle pour la science? Alors, tout d'abord, j'exprime les regrets de Sylvie Mesure qui ne pense pas pouvoir nous rejoindre parce qu'elle est souffrante et elle le regrette vraiment. Et elle vous remercie avec moi d'être là. Je vais vous présenter rapidement nos trois intervenants. Donc, Juliette Rouchier, directrice de recherche au CNRS, membre du LAMSAD, le laboratoire d'analyse et de modélisation de systèmes d'aide à la décision de l'Université Paris-Dauphine. Elle est spécialiste des simulations agents, co-auteure de l'ouvrage très riche et instructif paru aux éditions Matériologiques récemment. La diffusion de la COVID-19, que peuvent les modèles? Et elle interviendra sur le sujet, l'épidémiologie peut-elle devenir une science soutenant l'aide à la décision? Christian Walter est docteur en sciences économiques, titulaire de la chaire éthique et finances de la Fondation Maison des sciences de l'Homme. Il a été actif tout au long de la crise sanitaire, notamment par la publication de tribunes dans la grande presse. Et il interviendra aujourd'hui en faisant un parallèle entre la crise financière et la crise sanitaire avec la question de cas de panique épistémique. Ensuite, Gianluca Manso, qui est chercheur au CNRS, membre du GEMAS, et qui a été aussi actif pour proposer des méthodes tout au long de cette crise pour cibler mieux les vecteurs potentiels de la propagation de l'épidémie. Et à ce sujet, il nous a proposé d'intervenir avec comme titre Intervention réticulaire, un outil ignoré pour lutter contre le SARS-CoV-2. Alors, chaque intervenant va avoir environ 30-35 minutes de parole dans l'ordre que j'ai indiqué. Ensuite, nous pourrons échanger avec... ils pourront échanger entre eux et avec le public en fonction des questions qui seront posées. Peut-être est-ce que...
Bonjour, donc je m'excuse déjà auprès de Christian Walter qui connaît déjà très certainement par cœur tout ce que je vais raconter puisque je discute beaucoup avec lui à l'heure actuelle, effectivement autour de la crise. Et je vous remercie tous de m'avoir, enfin de venir écouter. J'ai essayé de sortir un petit peu de ce que j'ai écrit dans le livre avec mon co-auteur parce que je me dis que je ne vais pas répéter en boucle les mêmes choses. Et puis, on a fait quelques petits travaux supplémentaires. Donc, je vais plutôt vous parler de ça. Et en fait, je pense que la position première est parfaite parce que je vais vraiment parler de choses un petit peu théoriques. Et je sais déjà, enfin, j'imagine déjà ce que Gianluca va présenter, qui risque d'être un petit peu plus scientifique au sens une application à un cas vraiment bien travaillé, quoi, plus que ce que j'ai fait, qui reste quelque chose d'une utilisation, comme je dis, qualitative des modèles. J'ai changé le titre hein, parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer d'écrire sur cette question de la modélisation quantitative versus la modélisation qualitative, pardon, versus la modélisation quantitative. Et donc, c'est un peu dans cette perspective-là que je me situe. Et la plupart des travaux, en fait, ont été faits avec Victorien Barbé, qui est celui qui code et qui surtout sait très très bien sortir des résultats compréhensibles des modèles, parce que vous allez voir que c'est un des enjeux quand même dans la simulation agent, d'être capable de se rendre lisible. Alors par contre, voilà. Je voulais rappeler sur la question de l'aide à la décision, et je bouclerai sur cette question à la fin, sur qu'est-ce que c'est exactement l'aide à la décision? Parce que pendant toute la période de la crise, on a entendu des scientifiques qui disaient qu'ils se situaient qui voulaient faire de l'aide à la décision, et en fait, ils donnaient des informations sur ce qui va se passer demain. C'est-à-dire, ils faisaient des prédictions par rapport à, en général, un indicateur. Or, l'aide à la décision, c'est quand même une discipline qui a été formalisée depuis pas mal d'années et qui relève plutôt de l'informatique, en fait, hein, et qui propose des outils de formalisation, non pas pour donner une réponse, mais plutôt pour aider à structurer les problèmes. Et donc, l'aide à la décision, c'est plutôt un travail de structuration et de formulation de problèmes qui amène à des formalisations. Par exemple, on va classer des situations, on va fabriquer des indicateurs composés pertinents par rapport à des questions, on va organiser des systèmes de choix sous forme de vote. Bon, mais la structure du vote va avoir énormément d'influence sur comment les résultats vont pouvoir émerger dans un groupe. Et donc, en fait, ça va reposer, cette formalisation va permettre d'approcher des propriétés mathématiques, ce que vous allez retrouver dans la notion de modèle. Donc, on va avoir des propriétés mathématiques. Mais l'aide à la décision ne se résume pas à la production de propriétés mathématiques ou de résultats, parce qu'elle se situe dans un accompagnement dans lequel il faut rendre le décideur capable d'exprimer ses préférences, qui vont souvent se traduire par la notion de valeur, alors que je n'aime pas tellement, mais qui est très utilisée chez les informaticiens, et surtout d'aider à exprimer les alternatives de choix qu'on pourrait avoir, donc d'aider à créer un ensemble d'options comparables par rapport à une action politique ou par rapport à un choix de décision dans une entreprise. Et finalement, le décideur, avec la capacité à exprimer son problème, la capacité à exprimer un certain nombre d'options possibles à comparer et d'observer avec les outils formels comment il compare ces options en fonction de ce que lui-même a exprimé comme étant des critères importants, alors on va considérer qu'il est rationnellement informé et que donc il va pouvoir prendre des décisions. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est sur la question de la comparabilité des options, c'est-à-dire le fait que dans le travail d'aide à la décision, il y a aussi la proposition d'un certain nombre de possibilités diverses d'actions, ce que j'ai trouvé assez peu présent dans la période de la crise sur la question des options possibles, ou en tout cas, ça a été assez vite évincé dans les discussions à partir de mars 2020. Ensuite, il y a quelques spécificités sur l'aide à la décision publique qui, là, ne sont pas si pertinentes, parce qu'il y a la question de la légitimité des décideurs. Bon, là, ça ne s'est pas beaucoup posé, cette question-là. La question de l'applicabilité aurait été assez pertinente à traiter, en particulier sur la question des grands chambardements qui ont été mis en place dans nos sociétés, parce qu'il y a quand même eu des grosses limites et pas un respect absolu de tout ce qui a été mis en place. Et puis après, il y a toujours la question légitimité, résonne avec acceptabilité. Bon, ça, c'est aussi un concept qui est un petit peu difficile à utiliser, qui plaît beaucoup aux sciences dures plus qu'aux sciences sociales en général, mais qui sont quand même des questions centrales par rapport à ce problème d'aide à la décision et qu'on résout à travers une capacité, alors ce qu'on appelle en anglais accountability, qui est un mélange de prise de responsabilité et de transparence dans la prise de décision. Mais on voit bien que la transparence dans la prise de décision va être possible uniquement si on est équipé d'outils, comme j'ai cité au-dessus, c'est-à-dire des outils où on est capable d'expliquer pourquoi entre plusieurs options on en choisit une et quels sont les critères retenus. Voilà. Ça, c'était quand même pour signaler que ce n'est pas exactement ça qu'on a vécu dans les périodes récentes. On pourra en discuter, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la modélisation Agent-Based Modeling, qui était une des formalisations, un des formalismes qui est apparu très vite dans l'espace public pour justement faire de l'aide à la modélisation. Et en fait, elle est apparue dans l'espace public à travers de la quantité, des modèles quantitatifs, et surtout avec des prédictions quantitatives qui se situaient sur un critère qui était le nombre d'agents à l'hôpital, le nombre d'agents en réanimation, le nombre d'agents morts à un pas de temps donné, donc des prédictions de courbe d'épidémie. Ça a été c'était le seul indicateur en fait qui était dans tous les modèles observables, en tout cas, et qui ont été cités. Moi, j'en ai trouvé pas beaucoup parce que finalement, une fois que le papier de Ferguson est sorti et que le papier de Ferguson est sorti sous forme d'un rapport en mars 2020, et en fait, il a été pas mal utilisé au niveau européen pour justifier les confinements, les fermetures totales, parce que en fait, Ferguson, qui est de l'Imperial College, et ça, je l'ai beaucoup décrit dans le livre, avait trouvé des résultats assez affolants sur le nombre de morts qui risquait d'arriver en Europe si on ne sait pas quelque chose. Et donc, le quelque chose qui a été décidé était quelque chose d'assez radical. Mais comme il a été très critiqué, pareil pour des raisons que je reprends, et assez clairement surestimé, c'était assez rapidement, on pouvait déjà estimer qu'il avait beaucoup surestimé ce qui allait se passer. Mais finalement, ça a été une méthode tout de suite abandonnée. Et puis parce que souvent, l'agent-based modeling, on lui reproche d'avoir trop trop être trop sensible finalement aux paramètres, et donc dans une logique prédictive, un modèle trop sensible, c'est très dangereux, parce que on peut toujours se tromper sur un petit paramètre, et si ce paramètre est vraiment important et qu'on peut passer du simple au double dans les prédictions, et bien sûr, c'est pas super affûté, quoi. Et donc finalement, c'est une méthode qui a été juste reprise une fois. Donc je vais juste en parler un tout petit peu pour montrer que justement, ça pose quand même des problèmes massifs dans la comptabilité, c'est-à-dire la capacité à expliquer pourquoi est-ce qu'on fait des choix dans la formalisation et donc pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à notre modèle à la fin. Par contre, il a été très présent aussi, la modélisation IBM, pendant la crise, en tout début, sur une dimension qualitative, parce qu'on a été un groupe. Alors, le groupe a été lancé par Arnaud Banos et, je pense, Frédéric Amblard. Et on a créé un groupe, on était 25 environ, de gens qui font de la modélisation ou travaillent avec des modélisateurs, avec des gens aussi qui étaient bons en données, donc étaient bons en statistiques qui savaient où aller chercher des informations. Et pendant le premier confinement, le groupe a créé un site pour répondre aux questions du public sur expliquer des éléments de dynamique de la diffusion. Donc c'était un système de questions-réponses sur des thèmes. Alors par exemple, pourquoi est-ce que la densité a une influence sur la vitesse de la densité de population et une influence sur la diffusion d'une épidémie, qui est un truc qui est très évident pour des gens qui utilisent les simulations agents, mais qui mérite d'être explicité et démontré. Ça a permis, nous on avait développé un travail à ce moment-là qui est donc en ligne sur la question de la Suède, c'est-à-dire de l'alternative technique, je dirais, qu'a mis la Suède en place par rapport à un confinement total. On a pu partager des informations, des articles, et on se corrigeait de façon croisée les modèles. Donc en fait, ça a été une communauté. Je peux vous recommander d'aller regarder ce qui a été fait parce que c'est vraiment pour le grand public. Et ça permet de voir beaucoup de styles différents de modélisation, parce que tout le monde n'a pas la même façon d'aborder un problème et de modéliser. Et ça permet aussi de voir quels sont les types de questions auxquelles on arrive à répondre avec agent-based modeling et comment est-ce que ça s'organise. Donc, c'était vraiment un choix d'explicitation. Donc, il y avait pas mal de gens qui avaient déjà beaucoup travaillé sur de l'épidémiologie. En particulier, Arnaud Banos a longtemps travaillé sur de l'épidémiologie avec de l'agent-based. Alors, qu'est-ce que c'est agent-based? Je reprends parce que la notion de modélisation n'est pas claire pour tout le monde, et même si vous travaillez avec Gianluca, peut-être vous ne connaissez pas tous. Alors, la simulation agent, c'est une simulation, une modélisation qui est un peu spéciale, qui est une modélisation qui fabrique des univers. C'est-à-dire, on crée des univers virtuels qu'après, on observe. Donc, on fabrique, je veux dire, une réalité d'interaction entre des entités, ces entités étant des petits programmes qui interagissent les uns avec les autres et qui sont coordonnés par un système central qui coordonne des petits programmes. Donc, on fabrique réellement des agents qui peuvent être, alors ici évidemment comme on parlait d'infection, et bien des agents qui représentaient des humains individuels, et cet humain individuel, il pouvait être malade, il pouvait rencontrer des agents, et lors de ces rencontres, il pouvait transmettre la maladie. Et comme de façon assez classique dans les modèles, je ne sais pas si vous les avez vus, on a une logique qui s'appelle le CIR, c'est-à-dire que on a des agents qui sont susceptibles, pour le S, donc qui vont être capables de tomber malades. Donc nos petits programmes informatiques sont susceptibles de tomber malades. On a des I qui sont les infectés, donc c'est ceux qui possèdent le virus d'un certain point de vue dans notre métaphore de modèle. Et après, quand ils ont été malades et qu'ils se remettent, ils peuvent être recovered. Alors là, recover peut avoir plusieurs statuts, puisqu'on a vu qu'il y a eu une longue discussion tout du long là, de la période pour savoir si les gens qui étaient recovered étaient protégés par les anticorps pour la suite. Là, apparemment, il y a une étude qui vient de sortir, j'en ai entendu parler hier, je crois, et qui dit que finalement, les anticorps durent beaucoup plus longtemps qu'on pensait, ça peut aller jusqu'à un an. Mais ça, c'était une question qu'on ne connaissait pas. Mais vous voyez que déjà, la métaphore CIR, je pense que vous en avez entendu parler, et souvent, les modèles agents vont être utilisés comme ça. Mais donc, c'est vraiment un univers, et cet univers doit être observé. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer des choses qu'on appelle des émergences, c'est-à-dire des régularités, des formes qui vont apparaître. Par exemple, des blocs d'agents qui vont être malades et d'autres blocs d'agents qui ne vont pas être malades. Des zones qui vont être infectées, des zones qui ne vont pas être infectées. Ça peut arriver. Il peut y avoir, on peut observer la vitesse de ce qui est en train de se passer, qui est un indicateur qui va nous permettre d'identifier différents types d'émergence, différents types de situations. Bon. Et cet aspect-là de l'observation, elle est très, très importante parce que c'est le moment où on regarde un monde qui est quasiment que le monde humain, enfin, ou du moins, c'est la métaphore du monde qu'on a mis en place. On l'observe, mais pour ça, on n'a rien pour l'observer. Dans notre monde à nous, on a des yeux et des connaissances intuitives de ce que sont les interactions humaines qui nous permettent d'identifier ce qui est en train de se passer. Là, dans ce monde-là, on est obligé de fabriquer des sondes systématiques pour observer exactement ce qui se passe. Donc là, ça peut être le nombre d'agents à un pas de temps qui sont malades, ça peut être la durée de maladie moyenne, si ce n'est pas quelque chose qui est implémenté dans le système de façon fixe. On peut observer beaucoup de choses différentes, donc ça nous force à réfléchir réellement à ce qu'on veut regarder. Ça ne veut pas dire qu'on est capable, dans le monde réel, d'avoir exactement les mêmes indicateurs. Et c'est là où ça apporte une certaine puissance, c'est qu'on peut regarder des choses qui ne sont pas visibles dans le monde réel, qu'on ne sait pas. Par exemple, regarder à tout moment combien d'agents seraient susceptibles d'être infectés par quelqu'un qu'ils rencontrent. C'est-à-dire combien d'agents ont eu un risque d'être infectés à un pas de temps donné, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui était infectant. On peut regarder quelque chose comme ça, qu'on n'aura jamais dans le monde réel, jamais. Donc c'est là l'intérêt, c'est de pouvoir regarder beaucoup de choses un peu… Alors, qu'est-ce que c'était l'intérêt de la prédiction, quand les gens ont fait de la prédiction? C'est que quand même, il y avait cette espèce d'aspect plus de possibilités d'observer ce qui est en train de se passer que dans la plupart des modélisations, et aussi une très très grande facilité, je dirais, à produire de l'hétérogénéité, et ça je pense que Christian en parlera, à l'intérieur des modèles. C'est-à-dire que c'est excessivement facile dans un modèle agent de donner des caractéristiques différentes à différents agents. Par exemple, la question de la susceptibilité, on peut fabriquer un sous-groupe d'agents qui s'appelle les enfants et qui attrape, par exemple, 10 fois moins le virus que les autres. Ce qui semble être… il l'attrape visiblement, mais assez peu. Et donc, on peut fabriquer ça dans notre univers et leur attribuer un rôle précis. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui était assez intéressant à faire, qu'on peut difficilement faire dans les modèles que j'appelle phénoménologiques, qui sont des modèles agrégés, qu'on a vus ailleurs. En outre, ce qui est intéressant dans la simulation agent, c'est qu'on parle réellement, on montre la diffusion. C'est-à-dire qu'on est capable de dire qui a infecté qui à chaque moment. Ce qui est absolument impossible dans les modèles agrégés qui ont été utilisés par les collègues qui extrapolaient nombre de morts un jour en nombre de morts du lendemain ou nombre d'hospitalisés un jour en nombre d'hospitalisation le lendemain. Et qui étaient juste des extrapolations qui utilisaient des données macro, comme ça, qui passaient d'une donnée macro à une donnée macro. Là, on réfléchit réellement sur quelles sont les diffusions. Et donc, on peut réfléchir sur des politiques liées aux diffusions, liées aux interactions, beaucoup plus précisément, et on peut regarder quel est leur impact, d'un point de vue vraiment explicatif. Ça fait une différence quand même. Mais après, il y avait les deux immenses problèmes du grand jeu de paramètres et pas du tout assez de données pour fitter. En particulier, c'était très difficile au début de savoir, quand on rencontre, quand on rencontre le virus, quelle est la probabilité que la personne en face vous la donne. Alors ça, c'était un des trucs où on voyait bien que, en fait, dans chaque formalisation de modèle, cette probabilité, elle ne donne pas du tout la même chose. Et c'est très, très difficile d'anticiper. En tout cas, c'est très faible. Hein. Je peux vous dire à chaque fois qu'on n'arrive jamais à faire un modèle si ça, c'est un tout petit peu trop risqué. En fait, il faut vraiment, pour expliquer ce qui s'est passé, qu'il y ait quand même peu de transmission. Enfin, ce qui s'est passé en réalité. Il faut quand même qu'il y ait très, très peu de transmission à chaque rencontre. Mais bon. Le problème, et ça c'est le problème que John Lucas signalera, c'est que les modèles de diffusion sont extraordinairement fragiles, en tout cas peu stables, en fonction de la structure du réseau. Et ça, c'est quelque chose de créer un réseau, par exemple, aléatoire. Je suppose que vous connaissez le réseau aléatoire. Si on crée un réseau aléatoire, c'est-à-dire en moyenne, chaque individu a une interaction avec 5 agents pris n'importe où dans le groupe, ça ne va pas du tout donner la même chose que si on construit un réseau small world dans lequel il y a une tendance à ce que les amis de mes amis soient mes amis. Et où donc on construit une circularité dans les interactions. Ça donne des diffusions qui n'ont aucun rapport. Et donc ça, c'est à la fois en temporalité, en importance à la fin, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui fait que ce n'est pas des modèles qui pouvaient vraiment être utilisés pour la prédiction. Et d'ailleurs, ils ont été abandonnés et ça a plutôt été des modèles macro qui ont été, avec des indicateurs macro qui ont été utilisés tout du long. Je prends quand même un exemple pour que vous compreniez pourquoi c'est vraiment compliqué. Il y a eu un papier qui a été publié dans Nature, et il y a un deuxième papier derrière qui a été fait, mais qui n'a pas été publié, je crois, jusqu'à maintenant. En tout cas, j'avais regardé, jusque-là, il n'avait pas été publié. Et en fait, ils ont fabriqué un modèle agent, donc en représentant 500 000 individus. Et ces 500 000 individus, ils les ont répartis sur un espace qui ressemblait à la vérité des données de localisation à travers une grande ville. Alors, je ne sais pas sur quelle grande ville ils se sont basés, mais en tout cas, des données de localisation et des données de les gens travaillent, les gens ne travaillent pas, ils ont des enfants à l'école, ils n'ont pas d'enfants à l'école, etc. Donc, avec des données assez précises pour fabriquer ce qui s'appelle une population artificielle. Alors, la population artificielle, en soi, est déjà un enjeu très difficile à construire dans ce type de modélisation. Parce que justement, on part de données de type INSEE et on les traduit en agents individuels possédant des caractéristiques. Donc, de choses qui sont observées statistiquement, on crée des probabilités pour construire individuellement des agents. Donc, on passe de la statistique à la probabilité pour chacun des individus. Et ça, c'est super dangereux, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est très dangereux d'un point de vue et intellectuel, et etc., mais c'est comme ça qu'on fait. Donc, ce modèle pour fabriquer, il a fallu fabriquer les interactions, le fait que les agents vont travailler, qu'ils se déplacent, qu'ils vont acheter à manger, etc., etc. Et donc, ils ont fabriqué un monde dans lequel tout le monde se rencontrait et un monde dans lequel tout à coup, on met un confinement. C'est-à-dire, dans leur traduction, 70% des liens sont supprimés. Donc ça, c'est pareil, Gianluca pourra en parler. On supprime de façon homogène 70% des liens de chacun des agents. Bon. Et tout de suite, intuitivement, on sait que ça ne va pas du tout donner une population qui va ressembler à ce qui s'est passé réellement pendant le confinement, puisqu'en fait, il y a des gens qui n'ont absolument pas réduit leurs interactions, voire qui les ont augmentées, et d'autres qui les ont réduites totalement, donc à 100%. Donc en fait, là, on a déjà l'obligation de faire une approximation qui est un petit peu pas la réalité. Et ensuite, pour pouvoir construire un tel modèle de population, il faut 194 paramètres. Et ces 194, il y en a 192 qui étaient fixés dans le modèle et ils ont fait varier que 2 paramètres. Donc, toute personne qui est quantitativiste à ce stade a fait un arrêt cardiaque normalement. Et je ne sais pas pourquoi ce papier a réussi à être publié dans Nature, à part peut-être... Enfin, je ne sais pas, j'arrive pas très bien à comprendre. Et ils ont fait 200 bootstraps, c'était 200 tours de fit par rapport aux données qu'ils avaient déjà d'observation de ce qui s'était passé. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les éléments qui servaient de fit à leur courbe. Et là, c'est la courbe que produite par leur modèle. Et en violet, c'est les extrapolations qu'ils ont fabriquées, donc les prédictions qu'ils font. Donc, ça inclut quand même une idée qui est, par exemple, que dans les 192 paramètres, par exemple, nous allons chacun 2,3 fois par semaine faire nos courses, par exemple, où nous rencontrons en moyenne 5 personnes au magasin. Donc ça, c'est une des hypothèses qui est posée. Et c'est obligé de poser des hypothèses de ce type-là. Sauf que là, ce qui est très, très dommage, c'est qu'il y en a énormément. C'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres parce qu'il y a un désir de précision assez folle qui a été mis en place pour ce genre de modèle pour montrer qu'on avait fait une population qui était réaliste et donc très proche de la réalité. Mais le souci, c'est que plus on essaye de faire ça, plus on est obligé d'ajouter des paramètres et plus ils sont légèrement faux ou légèrement approximés ou on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Et moins le modèle finalement aura de robustesse. Et plus, je voserais dire, ça ressemble à un peu du doigt mouillé quand on dit qu'on a prédit quantitativement quelque chose. Je sais pas, alors ça, c'est une grande question, je pense qu'on pourra discuter, c'est pourquoi, à part sur les questions de démographie les plus simples, hein, je dirais, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est capable, en sciences sociales, de faire des prédictions quantitatives excessivement fines. Parce que je crois qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, on pense que de la physique, déjà, ça ne marche pas bien en biologie, le passage à la modélisation quantitative ne passe pas bien en biologie, je ne sais pas bien pourquoi, il y a une grande croyance qu'on peut faire ce type de modèle quantitativement juste, alors qu'en fait, tous les physiciens à qui j'ai montré ça, et les économistes aussi qui font du quantitatif, ils ne sont pas du tout contents de ce genre de méthode, parce qu'ils savent bien que c'est très, très approximé et qu'on ne montre pas grand-chose. Bon. À l'inverse, le modèle qualitatif, lui, il va essayer au maximum d'éviter de mettre trop de paramètres, il va se simplifier au maximum, il va éviter de trop fitter parce qu'il va chercher plutôt des grandes catégories émergentes, des grands patterns, des grandes régularités. Et il va essayer de trouver en fait les hypothèses qui sont suffisantes pour faire apparaître quelque chose qu'on va appeler des faits stylisés, c'est-à-dire des régularités du monde social. Et en fait, on va imaginer, enfin, on va extrapoler des lois à partir de choses qui sont assez générales. Alors, quand je dis assez générales, ça va être des choses un petit peu tautologiques, là, par exemple. Ça va être si chaque individu est beaucoup plus connecté, alors le virus va plus vite se déplacer. Si on réduit les connexions, alors on aura moins de circulation. J'ai peur qu'on ne puisse pas dire grand-chose de plus en moyenne, de façon très générale sur ce type de questions, sur juste le nombre de morts, je veux dire, sur juste ce genre de questions, la diffusion du virus. Là où c'est intéressant, c'est que ça force à une pensée centrée interaction, et donc on revient sur la définition de l'unité de base sur laquelle on doit réfléchir, qui est l'interaction. On a un certain nombre de régularités qu'on connaît des modèles agents déjà. Déjà, on sait fabriquer des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, on sait que si des agents ont certains types de croyances, ils vont générer l'effet qu'on s'attend à avoir ou qu'eux-mêmes s'attendent à avoir. Sur les marchés financiers, s'ils ont des croyances sur des valeurs, c'est cette valeur qui va finir être la valeur d'échange. Les agents s'attendent à ce qu'on se comporte mal avec eux parce que les autres agents seraient racistes, alors peut-être ils vont avoir des particularités de comportement qui vont faire penser aux autres qui sont bêtes, qui vont induire une réaction négative qui peut être interprétée pour du racisme et donc confirmer le fait que c'est du racisme. Et donc, en fait, la réflexion autour des prophéties autoréalisatrices est souvent de chercher comment est-ce qu'on peut sortir par des aides informationnelles de ce genre de choses. On sait que la congestion est assez fréquente. Si tout le monde veut la même chose, alors ça sature et le marché et, ou le système de ressources. Et que donc la question de la préférence individuelle est très importante. On sait qu'il y a beaucoup de polarisation très facile à faire, qu'à partir d'un simple processus d'imitation d'opinion, finalement, au bout d'un moment, les agents ils sont éloignés et l'imitation devient impossible parce que les agents n'arrivent plus à dialoguer ensemble et donc ne peuvent même plus s'imiter. Ça, c'est un des résultats très, très réguliers. Donc, en fait, que l'imitation amène à une situation où on ne peut même plus s'éviter parce qu'il y a des groupes qui sont devenus trop différents. Et il y a aussi l'idée de processus de renforcement qui sont très connus. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà connues. Et ça, c'est ce que j'appellerais les savoir-faire des gens qui font en général plutôt ces sciences avec un abord qualitatif, justement, avec la question des processus à l'intérieur des situations sociales plutôt que juste un nombre. Voilà. Et encore plus généralement, je voudrais rappeler quand même que la notion de modèle, à chaque fois, comme les modèles sont mathématiques, on essaye de nous faire croire globalement que ces modèles sont plus rigoureux qu'autre chose. Ça, c'était quelque chose que j'ai essayé de discuter dans le livre, mais finalement, il y a quelqu'un qui m'a critiqué dans un très beau papier qui dit que ça, c'est le truc qui n'était pas clair. Donc, il va falloir que je retravaille un peu sérieusement là-dessus. C'est qu'en fait, donc ce que j'ai dit avant, c'est qu'on a un certain nombre d'évidences auxquelles on peut s'attendre quand on utilise un modèle. Et en fait, ces évidences auxquelles on peut s'attendre, elles viennent, comme j'ai dit, de styles de modélisation, de façons de se représenter le monde. C'est-à-dire que, partir du principe qu'on va imiter le monde réel, on va toujours sortir le même type de modèle pour le représenter. Et ça va être, par exemple, tous ces modèles qu'ils ont utilisés, nos collègues. Ils ont réutilisé, quand ils ont fait, tous les collègues qui ont fait des extrapolations quantitatives du nombre d'hospitalisés aujourd'hui pour le nombre d'hospitalisés demain, en général, ils ont utilisé des modèles qui étaient déjà dans la littérature et qui avaient un ou deux paramètres. Ils ont juste fité les paramètres. Et tout le monde, en fait, dans la communauté, était d'accord que c'était ce type de modèle qu'il fallait utiliser. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord de la pertinence de ce modèle. C'est-à-dire que les résultats que ces modèles allaient donner, nous allions être capables de les interpréter dans le monde réel et pour agir sur le monde réel ou pour comprendre ou anticiper le monde réel. Mais en fait, il n'y a pas d'évidence à ça. C'est-à-dire que la construction de la pertinence d'un modèle et de l'acceptabilité d'un modèle, elle se construit dans le temps, dans des communautés de pratiques qui, par exemple, quand Nash invente la théorie des jeux, il n'y a pas d'évidence, à penser que c'est comme ça qu'il faut représenter l'interaction humaine et qu'on va tous être tout le temps dans des jeux de stratégie. Et que penser l'interaction humaine à travers la stratégie, c'est quelque chose qui va être pertinent, explicatif. Je crois qu'il y a des gens, ils ne sont toujours pas convaincus que la théorie des jeux a un intérêt. Par contre, il y a toute une autre pool qui va être ce que j'appelle communauté de pratique. Il y a plein de gens pour qui le monde se lit comme des interactions stratégiques, comme dans un jeu de rôle, tout le temps. Et que donc, c'est ça qui va leur permettre d'expliquer le monde. Alors, le degré d'adhérence qu'on va avoir à chacun des modèles, c'est ça qui va faire qu'on va voir la vie à travers le modèle ou qu'on va être capable de changer de modèle en fonction des types de problèmes. Et c'est vrai qu'il y a des gens, leur pertinence d'un modèle, ils croient qu'il est pertinent un peu pour tout. Bon. Et le deuxième degré, c'est la ressemblance. Quand je parlais des 194 paramètres, les 194 sont là pour faire comme si le modèle était excessivement ressemblant. Alors, je peux citer Borges qui rappelle que si on fait une carte qui est exactement comme le territoire, on n'a pas gagné grand-chose parce que finalement, on ne comprend pas mieux le territoire que la carte. C'est le même. On ne peut pas plus agir dessus, on ne peut pas plus réfléchir dessus, autant regarder le monde réel. Et donc, cette question de la ressemblance relative, elle est aussi liée à des communautés pour savoir quel est le degré de comment ça nous convainc. Parce que finalement, le modèle a effectivement une partie, et c'est en ça que je dis qu'il y a une partie, des parties molles et des parties dures, c'est que finalement, il y a quand même deux parties molles qui relèvent de conventions sociales et d'acceptabilité par les gens, de comment on interprète les données. Et c'est ces deux parties molles, en fait, où je placerai l'aide à la décision réellement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on tombe d'accord sur le modèle ? Donc, on tombe d'accord sur la modélisation, on part du monde et on choisit un modèle donné. Là, on peut faire des choses dures, parce que ce modèle va avoir des régularités, va donner des propriétés mathématiques, etc. Et ensuite, on a une interprétation qui relève aussi du mot, qui relève aussi de la conviction et de la rhétorique. Et voilà. J'insiste un peu sur ce côté parce que je ne crois pas vraiment que la modélisation formalisée soit plus dure qu'autre chose. Elle est juste, y a juste des étapes. Alors, c'est différent avec les mathématiques parce que finalement, les mathématiques, il n'y a pas trop le problème de ces deux zones de mou puisque ça construit un univers, je dirais. Il n'y a que le milieu dans les maths qui est vraiment pertinent. Et les extérieurs, eux, le rapport au monde réel, sont pas là. Mais ce rapport au monde réel, il ne faut pas croire qu'il est neutre et qu'il est… Voilà. Alors, pour la diffusion, on sait déjà des choses très fortes. C'est qu'effectivement, l'influence des réseaux est essentielle. Qu'en fait, l'influence de la taille de la population est essentielle. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils avaient fait un modèle avec 500 000 agents. Si vous faites un modèle avec 2 millions après avoir fait un modèle avec 500 000, ce n'est pas dit que vous ayez du tout les mêmes résultats. Il faut le faire. En fait, il faut le faire. On est obligé de faire tourner les simulations pour savoir, parce que c'est des choses qui ne sont pas du tout simples. Et aussi, mais ça semble assez facile à concevoir pour un phénomène de diffusion, ça dépend énormément de l'historique, et en particulier des premiers pas de temps. Parce que on imagine bien, si un agent, au début, il est un des premiers infectés, mais il n'arrive pas à refiler le virus à qui que ce soit, l'épidémie ne démarre pas. Et donc, en fait… Et par contre, le même va à un super à un événement où il rencontre énormément de gens à son troisième jour de maladie et où il tousse tout le temps, sur tout le monde, et personne n'est encore au courant qu'il ne faut pas qu'on se fasse tousser dessus. Et hop, vous avez 500 personnes potentiellement infectées d'un coup, qui sont en fait beaucoup des situations qui se passent apparemment pour les diffusions de virus. Donc là, je vous ai mis des papiers qui… qui montre que la diffusion, en fait, la question de l'influence des réseaux et de finalement comment les interactions fonctionnent réellement et quelle est la dangerosité de chacune des informations sont des choses qui sont excessivement importantes à bien connaître. Donc, la forme du réseau et ce qui se passe dans chaque interaction, c'est vraiment très important. Les durées d'interaction, parce que la durée aussi a une importance. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont tellement essentielles que finalement, sans ça, les modèles ne seront pas prédictifs. Ils seront abstraits, ils seront capables de travailler et de réfléchir sur des objets, mais ils ne seront pas prédictifs de facto. Bon, je vais avancer vers mes... Alors, on a fait des modèles qui sont présentés dans le livre avec Victorien. Donc, on avait fait un modèle joué qui est le modèle des interactions, mais que je ne présente pas ici parce que, pareil, Gianluca va bien nous parler des interactions, je pense. Enfin, des réseaux, des formes de réseaux et de leur importance. Et dans le modèle de la Suède, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser deux critères, c'est-à-dire un critère de nombre de non-confinés qui continuent à travailler, donc qui était une espèce de mesure de notre activité économique, et d'utiliser le nombre d'agents touchés. Alors, dans tous nos modèles, les malades guérissent, ça, c'était un choix qu'on avait fait à COF Préhension au début, parce qu'il y a quand même un truc un peu émotionnel à parler des morts dans lesquels on ne voulait pas s'embarquer. Là, on a une probabilité de transmission qui était très élevée, qui est dans les 20%. Donc, à chaque rencontre, les agents peuvent se transmettre une fois sur cinq la maladie. Ça, c'est un choix qu'on fait en fonction… En fait, on cale à partir des R0 théoriques qu'on avait qui traînaient dans l'environnement à cette époque-là, qui était entre 2 et 3. Et en fait, on fait tourner des simulations et on modifie la probabilité de transmission pour atteindre un R0 qu'on observe réel dans notre modèle, qui sera effectivement entre 2 et 3. Donc, en fait, à chaque fois, à chaque type de modèle, la probabilité de transmission, on est obligé de la changer pour caler sur ce R0 qui nous semblait l'élément le plus intéressant à observer. On avait mis 14 pas de durée de maladie et de contagion. Et l'idée, c'était que les agents s'autoconfinaient. Donc, on réduisait au moment où on se sait malade. Donc, dès qu'on sait qu'on est malade, vous allez voir que c'est une question sensible. On réduit son réseau à 3 autres agents, donc on rentre à la maison, on ne rencontre plus personne que les 3 agents, et il y a un certain nombre d'agents qui sont raisonnables, donc eux, quand ils apprennent qu'ils sont malades, ils se confinent, et de toute façon, au quotidien, ils respectent bien les gestes barrières, ça divise par 2 leur risque. Il y a des agents qui ne sont pas raisonnables, eux, ils ne se confineront pas quand ils sont malades, et ils ne respectent pas les gestes barrières au quotidien, donc ils ne réduisent pas leur risque de transmettre la maladie. Vous voyez que là, on fabrique des populations excessivement simples. Mais parce qu'en fait, comme je vous ai dit avant, être hyper précis, ça ne va pas nous faire forcément gagner. Donc, en réflexion, on fait ceux qui sont raisonnables, ceux qui ne sont pas raisonnables, ça ne bouge pas. Et on a mis, donc ce pourcentage de raisonnables, c'est un de nos indicateurs, parce que quelque chose qui est intéressant à tester, c'est quand on met en place des règles dans un système, regardez combien le système de règles est résistant au fait que les gens ne suivent pas la règle. C'est une politique publique qui va être résistante au respect ou non de cette politique publique. Et donc, on peut se dire qu'on pourrait bien avoir 5% d'agents qui ne suivent pas les règles. Ce n'est peut-être pas très grave dans un dispositif, que par contre, si c'est 20%, ça fait s'effondrer totalement les avantages qu'on pourrait avoir dans le système. Et ensuite, il y a évidemment la question qui est sensible de savoir pour pouvoir s'autoconfiner. Si on fait comme les Suédois, faut déjà savoir qu'on est malade, ce qui posait des problèmes sur cette maladie-là qui se cachait un peu. Et donc, en fait, on commence d'abord par fabriquer des modèles hyper tautologiques, c'est-à-dire où c'est évident ce qui nous arrive. Et donc, on teste. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est on a un certain nombre d'agents sains au début, et puis on met un agent qui est infecté. Et cet agent, il va transmettre à d'autres agents. Donc, en haut à gauche, c'est ce qui se passe, je dirais ce qu'ils appellent l'histoire naturelle de la maladie. Donc, on met de la maladie dans un groupe d'agents, il y a un certain type de réseau, et la maladie se diffuse à tous les agents. Tous les agents quasiment finissent par être touchés, mais pas tous. Comment ça peut se faire que tout le monde n'est pas touché? Là, il y a tout le monde qui est touché, peut-être. Mais ça peut arriver que tout le monde ne soit pas touché en fonction du réseau. Il peut y avoir un agent qui est assez central par rapport à qui va faire le lien entre 2 groupes d'agents dans un small world, donc dans 2 small worlds, donc un agent qui est au milieu et qui sépare 2 groupes d'agents. Et à ce moment-là, si ça ne passe pas par cet agent, s'il ne tombe pas malade, il se peut que le, le, une demi-population soit touchée et que ça ne se transfère pas à l'autre population, à l'autre partie de la population, parce qu'il y a un agent qui ne l'attrapera pas et qui ne transmettra pas à l'autre partie de la population. Donc, on fait d'abord, on fait un truc très simple pour être à peu près confiant avec notre modèle. On le fait tourner, on varie les différents paramètres auxquels on s'attend qui vont donner quelque chose de logique. Et puis ensuite, on commence à faire nos propres expériences. Bon, bah là, c'est la sensibilité au respect individuel des règles. Et vous voyez que ce qu'on peut observer, c'est que quand même, la question d'être raisonnable par rapport à la... par rapport à l'infection, c'est quand même quelque chose de très, 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 enfin, de respecter des règles, et le respect des règles est très important. C'est-à-dire que si on a 15% des agents, donc c'est ce qu'on a à côté, qui ne respectent pas du tout les règles, ni les gestes barrières, ni le fait de s'autoconfiner dans ces confinements sélectifs, et 20% des agents qui ne respectent pas et refusent de faire les gestes barrières, on voit déjà qu'on a deux configurations possibles de simulation qui sont très différentes. Dans tous les cas, vous avez en bas à gauche les épidémies qui ne démarrent pas. Donc là, avec jusqu'à 20% d'agents qui ne respectent pas la règle de s'auto-confiner quand on est malade, il y a quand même une grosse partie où l'épidémie ne va finalement pas prendre. En tout, l'épidémie dure très très peu de temps et il y a très peu d'agents qui sont touchés en bas à gauche. On voit la durée de l'épidémie par rapport au nombre de malades. Enfin, c'est ça qu'on lit sur la... Alors que dès qu'on va... réduire le nombre de gens qui ne respectent pas, ça réduit les cas très embêtants de la simulation où à la fois il y a beaucoup de gens qui sont touchés et l'épidémie dure longtemps. Donc effectivement, on voit immédiatement que c'est quelque chose de très important. Par contre, on pourrait en discuter à ce stade. C'est-à-dire que là, à partir d'un modèle comme ça, on pourrait commencer à discuter du réalisme de ce qu'on a mis en place dans notre modèle, du sens que peut avoir la notion de respect des règles, etc. Et plutôt que de dire c'est 15% le nombre qui va être important. C'est pas l'idée qui va sortir, en fait, quand on fait un modèle comme ça, c'est pas de dire voilà le nombre qui est le nombre auquel bascule notre politique, puisqu'en fait, on va dire qu'elle est très abstraite, notre politique, et qu'elle est très loin de la réalité. Par contre, ça dit il va y avoir des effets de seuil. Et donc, on peut re-réfléchir aux effets de seuil qui vont être, ah ben oui, il n'y aura pas de problème, même si, alors là, on n'a pas mis, mais en fait, c'est à partir de 15% que ça pose des vrais problèmes et en dessous, dans notre modèle à nous, ça pose beaucoup moins de problèmes, il y a beaucoup moins de diffusion. Et donc, voilà.
Juliette, si je peux me permettre, il faut juste rappeler le temps, peut-être, Nathalie.
Il reste combien de temps?
Il vous reste 5 minutes maximum, parce que là, je pense que vous parlez depuis une quarantaine de minutes.
D'accord.
Mais c'est passionnant, donc voilà, je voulais...
Ouais, non, mais je vais finir sur quand même ça, puis tant pis pour tout le reste. Tant pis. Et après, il y a la question de l'information parfaite qui nous avait intéressé aussi sur la question de la Suède, puisqu'évidemment, on n'est pas au courant nécessairement qu'on est malade ou pas. Et donc, là, en haut, vous avez encore des agents qui respectent pas très bien, puisqu'il y a 20% qui ne respectent pas, et en bas, des agents qui respectent un petit peu mieux. Et ce qu'on regarde sur la courbe, les courbes de gauche, c'est celle qui vous raconte quel est le nombre d'agents qui vont être malades finalement dans l'histoire. Donc, ça fait une courbe qui monte un petit peu, là, parce qu'il est quand même assez efficace le système. Et là, notre système pour se mettre à la maison, c'est assez efficace quand même. Il marche bien. Hein. Notre système suédois marche bien chez nous, bon, peut-être mieux qu'en Suède. Et ça permet donc aussi de contrôler le deuxième critère que nous, on avait mis en place, qui était le critère de capacité à être actif. Bon, alors là, après, on a fait des croisements. Là, on a fait tourner des dizaines et des dizaines et des dizaines de simulations où on fait un croisement, finalement, entre à quel moment est-ce que vous êtes au courant que vous êtes malade ou pas, c'est-à-dire le temps avant qu'il y ait des symptômes. Et ce qu'on lit sur ces courbes-là, c'est que si tout le monde est raisonnable et respecte les règles parfaitement, dès qu'il sait qu'il est malade, il se confine, il respecte les gestes barrières. Dans notre modèle, au moins, ça peut tenir jusqu'à 4 jours sans être au courant qu'on est malade. Donc, 4 jours sans être au courant qu'on va diffuser la maladie et qu'on est malade. Si tout le monde respecte bien dès qu'il est malade et qu'il se met à la maison, on n'a pas de démarrage d'épidémie ou très, très rarement, ça tient bien. Par contre, dès qu'il y a des agents qui ne sont pas raisonnables et qui ne respectent pas, en fait, à partir du moment où il y a du décalage, ça ne fait qu'amplifier les phénomènes de diffusion. Et le croisement entre un manque d'information et un respect pas total, ça nous fait des explosions. Voilà. Après, avec un modèle qui n'est pas forcément calé et pas forcément juste, mais on voit bien que croiser des types de contraintes à la fois informationnelles et de compliance, qui sont deux façons de concevoir la relation à la politique publique, ben ça va quand même. Et donc là, la question des tests et de la capacité des tests, on voit bien qu'elle est fondamentale face à des politiques publiques autour de l'infectiologie, quoi. Là, ça fait ressortir ça. Après, on a fait aussi la même chose avec si on met en place le confinement ciblé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, s'il est mis en place immédiatement, il marche très, très bien. S'il est mis en place au bout de 7 jours et qu'il y a déjà eu pas mal d'infections, ce n'est pas trop, trop grave dans cette population-là. Quand on commence à dépasser 10 pas de temps, et qu'on est là, on a fait jusqu'à 14, on ne voit quasiment pas de différence avec une situation où on ne met pas en place de confinement. C'est-à-dire, tout le monde tombe malade très, très vite et les gens ne travaillent pas et il y a les mêmes problèmes que si on n'avait pas mis en place le confinement. Donc, en fait, le confinement de type suédois ciblé, visiblement, il est bien en préventif plus que en réactif. Enfin, disons que ça, ce serait une des conclusions sur lesquelles on pourrait être à peu près sûr, parce que toutes les histoires de compliance et d'information, ce n'est pas terrible. Alors là, c'est le seul truc où j'étais très triste parce que ça n'a pas du tout marché, alors que vraiment, j'y croyais. C'était l'idée que les gens, quand ils ont été malades, il faut qu'ils ressortent, que ce soit eux qui ressortent dans les interactions, dans les magasins, au travail, etc., etc., parce qu'ils n'allaient plus transmettre. Et que donc, dans les interactions, eux, ils allaient plutôt être bloquants dans la transmission du virus et que plus on aurait de gens dehors déjà malades, et, enfin, qui étaient guéris. Et en fait, ça n'a pas du tout d'effet dans notre modèle. Donc, j'étais très triste et il faudrait peut-être refaire sur d'autres modèles, tester ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si dès que les gens ont été malades, ils ont le droit d'avoir une activité dehors ou pas? Ça, bon, ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. Bon, alors, j'arrête, mais parce que je parle beaucoup trop. Mais donc, voilà, c'était pour vous expliquer qu'on est quand même dans une démarche qui est assez différente de ces modèles phénoménologiques très macro, finalement, qui n'étaient pas très explicatifs et je dirais, pas rendaient pas tellement possible de manipuler des choses comme voilà, la compliance, le type d'information qu'ont les gens, qui sont quand même des éléments assez importants en politique publique. Et après, c'était intéressant parce que j'ai lu des trucs où il y avait quand même des constructions contrefactuelles assez subtiles. Il y a quand même un papier de Vittoria Colizza dans lequel elle a réfléchi à des contrefactuels qui rentrent dans ces modèles phénoménologiques, mais on peut en construire beaucoup moins que dans des modèles agents. Le modèle agent, c'est vraiment le modèle du contrefactuel, c'est d'une simplicité absolue que de jouer avec des univers différents et d'essayer de réfléchir comment on construit des indicateurs pour comparer nos univers. Et donc, creuser pourquoi les choses arrivent et elles n'arrivent pas. Après, je trouve qu'il y a une approche pédagogique assez bien et je vous recommande vraiment d'aller regarder sur Coffpréhension parce que, voilà, c'était ça que je trouvais très, très positif. Et aussi, comme on fait des modèles qui sont un petit peu simples, ils sont rapides à construire et rapides à modifier. Et moi, j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on avait des nouvelles connaissances, on pouvait changer un peu les hypothèses dans le modèle, mais très rapidement. Et donc, faire évoluer ce qu'on pouvait dire de la situation du moment, qui n'est pas que sanitaire, hein, sanitaire économique, on pouvait le... Et donc, c'est des outils qui sont, ben, ce que je disais sur l'aide à la décision, ils sont bien pour créer des indicateurs, ils sont bien pour faire apparaître des effets contre-intuitifs, chercher des explications, donc la question de l'accountability, plein de tests de contrefactuels, donc quand même se creuser la tête sur tout ce qui pourrait arriver, même des trucs absurdes en fait, mais au moins les réfléchir, et voilà, création d'indicateurs, je l'avais déjà dit. Voilà.